commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Nous sommes avec Jean-Claude Casanova, bien sûr, et moi-même qui sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la Russie, sur le jeu de Vladimir Poutine, le profit qu'il escompte de la situation au Proche-Orient bientôt, bien sûr, et puis la période de flottement sur l'Ukraine avec l'interview dont nous avons déjà parlé d'ailleurs, mais nous en reparlerons du chef d'état-major ukrainien qui était assez pessimiste sur le sort des armes, et donc nous verrons aussi quel impact cela peut avoir sur ce front qu'est évidemment la guerre russo-ukrainienne. Nous avons avec nous Françoise Thom. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez longtemps enseigné l'histoire soviétique, puis l'histoire russe, et un de vos derniers ouvrages porte sur Poutine ou l'obsession de la puissance, et donc nous allons en avoir quelques preuves supplémentaires. Dans un article récent, vous commentiez un discours récent de Vladimir Poutine, à partir duquel nous allons démarrer cette conversation. Discours prononcé devant un club qui s'appelle Valdaï. Vous nous direz ce qu'est ce club. Et en tout cas, c'est un discours essentiel parce que vraiment, c'est la vision stratégique de Vladimir Poutine, dont je ne citerai qu'une phrase parce qu'elle me paraît commander tout le reste. Donc, Vladimir Poutine écrit « Le droit international moderne, construit sur la base de la Charte des Nations Unies, est dépassé et doit être détruit. » Donc, ça donne bien toute la philosophie de ce qui se joue aujourd'hui, dans l'alliance également entre la Russie et la Chine, mais pas seulement. Donc, Françoise Thom, d'abord, peut-être un mot sur ce club Valdaï, qu'est-ce que c'est, et ensuite, l'importance que vous accordez à ce discours et à cette j'allais dire exposé des motifs, l'ordre issu de la Charte des Nations Unies de la Deuxième Guerre mondiale, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, doit être détruit. Françoise Thom.
Oui, alors le Club Valdaï, c'est une espèce de think tank qui organise des réunions annuelles invitant des experts, et notamment des experts étrangers, très souvent d'ailleurs des experts triés sur le volet. Et au cours de cette réunion annuelle, Vladimir Poutine expose sa vision des relations internationales, de la situation. Et c'est un peu, on peut dire qu'il donne un petit peu les instructions du Kremlin au vaste réseau qui existait autrefois, qui existe un petit peu moins aujourd'hui, de la mouvance pro-russe dans les pays étrangers.
Ils ont donc tous les relais d'opinion qui
voilà,
peuvent,
qui c'est peuvent, à, qui... il réunissait les relais d'opinion et donnait ses instructions, encore une fois les instructions de la propagande du Kremlin, qui devait être répercutée à différents degrés, bien sûr, sous différentes modalités dans les différents pays.
Donc on voit bien que dans ce discours important qui a été prononcé donc le 5 octobre dernier, devant ce club Valdaï, est exprimée l'ambition stratégique de Vladimir Poutine.
Oui,
faire naître un monde nouveau qui soit à sa main cette fois.
J'ai comparé ce discours à celui de Zhdanov en septembre 1947, au moment de la création du Cominform. Ce discours annonçait en fait le début de la guerre froide, au moins dans l'esprit des Occidentaux, parce que dans l'esprit de Staline, cette guerre froide n'avait jamais cessé. Mais donc c'est un petit peu l'analogue. J'avais l'impression en lisant le texte du discours de Poutine, il y avait des formules qui rappelaient tout à fait, même mot à mot, les formules de Zhdanov. L'idée que le monde est divisé en deux camps. Un camp progressiste, décolonial, dans le vocabulaire de Poutine, mené par la Russie, et puis le camp des puissances coloniales, impérialistes, qui est en voie de démantèlement, de disparition. C'est exactement la vision, encore une fois, de la vision soviétique qui est remise au goût du jour par Poutine, cette vision manichéenne d'un affrontement entre deux camps. L'un est condamné par l'histoire, l'autre, au contraire, va s'imposer. Alors, il y a l'idée fondamentale, c'est la même qu'avait Jdanov d'ailleurs, c'était de lutter contre l'hégémonisme américain. Hein, parce que la tête du camp occidental, il y a les États-Unis. Et donc, pour détruire ce camp occidental, il faut démanteler l'hégémonie américaine.
Jean-Claude Casanova.
Oui, la vision qu'avaient les soviétiques reposait sur le schéma marxiste avec d'un côté, si j'ose dire, la révolution prolétarienne et de l'autre côté, la bourgeoisie et le capitalisme. Là, évidemment, cela a disparu, mais à l'arrière-plan, je crois, il y a fondamentalement l'impérialisme ou le nationalisme russe, comme on voudra, parce que si on prend l'histoire du XXe siècle, le début du XXe siècle commence par deux défaites russes vis-à-vis du Japon, la guerre russo-japonaise, et vis-à-vis de l'Allemagne en 17. Brest-Litovsk est une gigantesque défaite. Le grand homme, incontestablement, pour Poutine, c'est Staline, pour l'excellente raison que Staline efface les deux défaites précédentes. La Russie gagne en Orient avec la révolution chinoise, et elle gagne en Occident en occupant la moitié de l'Europe. D'une certaine façon, Staline sort le plus grand homme de la Seconde Guerre mondiale. Et il interprète le 89, la chute de l'Union soviétique, comme le recul, c'est-à-dire comme une nouvelle défaite. Et alors il habille cette défaite dans le schéma que décrivait Françoise, il l'habille dans l'idée qu'il y a deux mondes, qu'au fond ce qui domine c'est l'antagonisme, il y a deux mondes fondamentalement différents. Ce qui caractérise la Russie, c'est la grande surface, le nucléaire, une fibre morale supérieure, un leader et un Occident qui est à la fois corrompu et corruptible.
Oui, c'est ça, tout à fait.
François Storm.
C'est tout à fait ça. Il y a aussi, je trouve intéressante dans le discours de Poutine, l'idée d'un déterminisme historique. Il affirme que, en fait, c'est en quelque sorte la marche de l'histoire. Lui et les commentateurs russes, les commentateurs officiels, ont mis l'accent sur cet aspect de déterminisme. L'Occident ne peut rien faire. De toute manière, il est condamné par l'histoire. Le mouvement irrésistible va vers le démantèlement de la civilisation occidentale, parce que c'est aussi une question de civilisation.
Oui, puisque dans ce discours, Vladimir Poutine parle de la Russie comme d'un État-civilisation.
C'est ça.
C'est une ambition absolument extravagante en même temps, de dire « nous sommes la civilisation ».
Oui, c'est ça. Il parle même des transfuges de la civilisation russe. C'est-à-dire que la civilisation est aussi un camp. Dans son esprit, la civilisation russe, c'est un camp fermé duquel on n'a pas le droit
de sortir.
Hein. C'est un peu la vision d'Ivan le Terrible qui condamnait Kurbsky parce qu'il avait fait défection en Lituanie. C'est ça. Donc, il a cette idée que, enfin, il la propagande depuis des années d'ailleurs, affirme que la Russie est moins un État d'ailleurs qu'un État civilisation, c'est-à-dire qu'elle peut intégrer d'autres peuples. En fait, l'impérialisme russe se déguise sous ce concept. Ça veut dire que la Russie peut facilement intégrer, elle peut intégrer tous les peuples de l'Eurasie dans son État civilisation.
Et alors on voit bien qu'à travers ce discours et cette démarche, qui consiste donc à défaire l'ordre qui est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a au fond la recherche de l'impunité, c'est-à-dire que il ne veut pas être embarrassé par des règles qui l'empêchent de récupérer l'Ukraine, très concrètement.
La recherche de l'impunité est fondamentale dans la politique de Poutine. Par exemple, l'arme nucléaire, pour lui, c'est ça, c'est pas la dissuasion. Enfin, c'est la dissuasion au sens de la garantie de l'impunité pour lui. Et la souveraineté, quand il parle de la souveraineté de la Russie, c'est en fait son impunité à lui. C'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi et les autres ne peuvent rien faire contre lui. Donc ça, je dirais, c'est le reflet de la mentalité mafieuse qui est à la base du système Poutine, outre la vision cette vision messianique qui se combine de façon assez originale hein, avec la mentalité mafieuse. Et c'est ce qui fait de la Russie de Poutine, j'ose même pas dire un État, parce que c'est pas vraiment un État, c'est une bande, hein, une bande criminelle organisée.
Jean-Claude Casanova.
Ou un agglomérat de bandes criminelles organisées.
Jean-Claude.
Oui, mais on voit très bien dans le raisonnement pourquoi l'Occident a du mal à comprendre, parce que l'Occident vit sur deux idées, l'une du progrès politique par la démocratie et l'autre de la pacification par l'économie. Et donc, l'Occident est désarmé, met du temps à comprendre en face lorsque quelqu'un est dominé par l'antagonisme, c'est-à-dire fondamentalement, Poutine pense que lui et la Russie, étant confondus, incarnent une réalité antagoniste fondamentalement différente de l'Occident. Et il considère que l'Occident est corrompu. Et donc c'est ce qui explique d'ailleurs qu'une partie des droites occidentales ont de l'admiration pour Poutine, parce que ils admirent le conservatisme moral affiché. Je crois que Poutine est en même temps un chef de bande et un kleptocrate, mais il croit sans doute à ses idées, il croit à la supériorité morale de la Russie par rapport à l'Occident. Et de ce fait, cela nous... C'est pour ça qu'on a mis du temps à comprendre. Normalement, on aurait dû comprendre Poutine à partir de 2004-2005, très nettement avec l'affaire de Crimée, et maintenant c'est aveuglant, plus personne en Occident ne peut croire autre chose que ce qu'il voit. Mais ce qui caractérise les autocrates du type de Poutine, c'est que ils ont un sentiment de supériorité à l'égard du reste du monde, et ils ont le sentiment que leur supériorité s'accompagne de l'infériorité fondamentale de l'Occident, qui est à la fois divisé, corrompu moralement, intéressé, etc. Et donc, dans cette situation antagoniste, il faut patienter et résister.
Oui, je dirais cette vision de l'Occident, c'est pas seulement la vision de l'Occident comme corrompu et dégénéré, etc. C'est au fond la vision de l'humanité qu'a le régime de Poutine, parce que il a la perception de l'homme qu'on a dans les services qu'on avait au KGB, c'est-à-dire on cherche les faiblesses. On regarde par où l'acheter, par où l'intimider. C'est la vision de l'agent recruteur, en fait, qu'a Poutine. Et cette vision, les services secrets russes ont réussi à l'inculquer à l'ensemble de la population russe et à leur donner une perception totalement, je dirais, misanthropique hein, de l'humanité. Pour détourner les Russes du politique, de la politique, on leur dit ben de toute façon tous sont des salauds, tous sont des voleurs, donc pourquoi avoir un vrai parlement pour représenter des voleurs et des assassins. Vous voyez, c'est le discrédit de toutes les institutions dites démocratiques.
Et on justifie l'intervention contre l'Ukraine en disant on va dénazifier, donc on va chasser les nazis.
On va chasser les... Oui, c'est évidemment, il y a toujours l'énorme mensonge qui est au cœur de ce système et qui est hérité alors du communisme, évidemment. Mais j'insiste beaucoup sur cette vision totalement noire de l'humanité qui... Encore une fois, englobe aussi la Russie. Elle englobe toute l'humanité, pas seulement l'Occident.
Et alors, en attendant, il va se préparer une élection présidentielle, malgré tout. Et on voit même, d'ailleurs, que Vladimir Poutine, sur le terrain, multiplie les déplacements qui ressemblent à des... qui ont un air de campagne, malgré tout. Alors, il voit des enfants dans les hôpitaux, il caresse la tête des enfants, il se montre bonhomme, presque, j'allais dire, presque affectueux avec les gens qu'il rencontre. Enfin, et donc... Et les Russes semblent ne pas être perturbés par ce décalage entre ce qu'il fait, la guerre et ce qu'il, la façon dont il veut apparaître aux yeux des gens comme une sorte de prince bienveillant.
Bah, c'était ce que faisait Staline en pleine purge. Hein. Il caressait la tête des enfants dont il avait fait fusiller les parents. Les Russes ont l'habitude de. ce contraste. Et ils ont l'impression, en fait, que rien ne dépend d'eux. Donc, pour eux, c'est un spectacle. Ces élections, c'est uniquement un spectacle. Et les pourcentages ont déjà été fixés par l'administration présidentielle. On donne des directives aux gouverneurs des régions qui doivent assurer un pourcentage de, mettons, 90% pour favorable à Poutine. Et il faut que le pourcentage soit un peu plus élevé qu'aux élections précédentes. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, les élections en Russie, maintenant, c'est un peu, encore une fois, comme à l'époque soviétique, c'est un moyen de contrôler l'efficacité de la verticale du pouvoir. C'est-à-dire que le gouverneur qui n'a pas un bon résultat, il risque d'être limogé. Hein. Donc, il n'arrive pas aux 90%. Ça peut tourner mal pour lui.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec François Stomme, spécialiste de l'histoire de la Russie, d'abord de l'Union soviétique, puis de la Russie. Nous évoquons évidemment la Russie de Poutine à partir d'un grand discours stratégique qu'il a prononcé le 5 octobre dernier devant un club qui s'appelle le club Valdaï, qui est une sorte de Davos russe, en quelque sorte. Dans le même temps, se continue la guerre, mais on a l'impression aussi, François Stomme, que Poutine, qui a traversé des moments apparemment plus inquiets du sort des armes, a retrouvé de la confiance. Et on ne peut pas ne pas mettre cela en relation avec l'interview récente du principal chef militaire de l'Ukraine, au journal The Economist, je crois, et qui, au fond, était assez pessimiste sur le sort des armes, ou en tout cas disait que la contre-offensive ukrainienne ayant échoué, il lui fallait maintenant, si on voulait vraiment gagner cette guerre, d'autres armes et une sorte de saut qualitatif dans l'armement qui est fourni à l'Ukraine, que pour le moment ils n'ont pas, François Stomme.
Oui, d'ailleurs, les Occidentaux ont laissé passer l'occasion. Les difficultés que connaît l'Ukraine, et c'est même un euphémisme de parler de difficultés, parce qu'elle perd des hommes, et c'est tout à fait tragique pour l'Ukraine. Elles sont imputables à cette irrésolution occidentale qui a fait qu'on n'a pas donné aux Ukrainiens à temps les armes qui auraient pu être décisives au moment de l'offensive, de la contre-offensive réussie de Kherson, quand l'Ukraine a libéré une partie des territoires que la Russie avait occupés. Donc il aurait fallu continuer dans la foulée et approvisionner les Ukrainiens en armes, notamment leur donner une aviation et des chars pour qu'ils puissent pousser l'avantage, et la Russie aurait été défaite à ce moment-là, ce qui aurait été tout bénéfice aussi pour la Russie, puisque le régime de Poutine aurait probablement été très compromis par une défaite militaire. On peut espérer qu'il serait tombé après une défaite militaire. Cette occasion-là, les Occidentaux, par pusillanimité, l'ont laissé passer. Et les Ukrainiens en payent le prix aujourd'hui.
Alors, pusillanimité ou bien analyse politique peut-être erronée de la part des Occidentaux, qui consiste à dire il ne faut pas que la Russie gagne, mais il ne faut pas non plus qu'elle perde trop, parce qu'on ne veut pas mettre en péril, au fond, le régime de Poutine. Au nom d'un conservatisme qu'on peut comprendre, d'ailleurs en disant oui, d'accord, mais on ne sait pas ce qui peut venir après. Après une éventuelle déposition de Poutine.
Oui, c'est toujours l'éternelle peur du chaos que les Russes manipulent extrêmement bien. D'ailleurs, en 89, 91, c'était la même chanson. On nous disait ça va être le chaos. Gorbatchev nous disait il faut soutenir Gorbatchev contre Yeltsin pour éviter le chaos. Et ça marchait très bien en Occident, cette peur du chaos, comme si le chaos était pire que le régime de Poutine. Je vois vraiment difficilement comment un régime peut être pire que celui de Poutine.
Jean-Claude.
Alors, la situation actuelle, je crois, est simple aujourd'hui. Il y a trois facteurs essentiels. Le premier, c'est que manifestement, Poutine attend l'élection américaine. Il attend l'élection américaine parce que il y a une chance, une possibilité que Biden soit battu et que le principal allié de Poutine, c'est-à-dire Trump, soit élu. Et donc, comme le front est stabilisé, il peut attendre un an de cette façon. Le deuxième facteur, c'est le niveau d'armement de l'Ukraine. Il faut dans cette période profiter d'armer l'Ukraine, parce que c'est le niveau d'armement de l'Ukraine qui permettra d'infliger davantage de pertes à la Russie et d'amener la Russie à la conciliation ou à la négociation. Et le troisième facteur, c'est le maintien des sanctions vis-à-vis de la Russie pour rendre la situation économique plus difficile pour la Russie et la rendre, même si ça la rend plus dépendante de la Chine, ce qui à certains égards ne doit pas lui plaire. Et ce que on peut tirer de l'interview excellente du chef d'état-major ukrainien, c'est que la Russie accepte les pertes humaines et donc tout le problème est le niveau d'armement de l'Ukraine qui étant moins peuplée doit compenser son manque d'hommes par un armement supérieur.
François Stomm.
Oui, je pense que l'essentiel pour l'Ukraine, et c'est ce que disait Zaloujny, c'est d'éviter la guerre d'attrition. Donc effectivement, si l'Ukraine peut faire monter la facture à la Russie en détruisant ses navires, en détruisant ses stocks d'armes, ses stocks de carburant, etc., elle peut finalement lui rendre la guerre intenable et l'occupation intenable dans les territoires ukrainiens. Et je crois que c'est les moyens qu'il faut donner à l'Ukraine, c'est justement ceux-là qui permettent de rendre la guerre intenable à la guerre et l'occupation intenable à la Russie.
Avant de nous séparer, François Stomm, il y a une dernière question que je voulais vous poser, c'est que dans le discours dont nous sommes partis, c'est-à-dire ce fameux discours devant le club Valdaï de Vladimir Poutine, il y a aussi mention de ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc il y a aussi l'affirmation, on y voit pratiquement l'affirmation d'une alliance entre Poutine et le Hamas et l'Iran. Ce qui est quand même un élément important dans la situation.
Oui, c'est.
Il fait le lien entre les deux guerres en fait.
C'est implicite dans le discours de Valdaï, mais dans les discours suivants qu'a prononcé Poutine, il dit que le sort du peuple palestinien se décide en Ukraine. C'est-à-dire que comme dans sa vision, les États-Unis tirent les ficelles. Dans les deux, dans le cas d'Israël et dans le cas de l'Ukraine, il faut vaincre les États-Unis pour et les proxys des États-Unis pour résoudre le problème palestinien et bien sûr le problème ukrainien.
Et donc il y a quasiment aujourd'hui une sorte d'axe entre Moscou, Téhéran, Pékin. Qui sont...
Et le Hamas.
Et le Hamas évidemment qui est un des bras armés évidemment de l'Iran en tout cas
oui,
et là aussi et c'est pas nécessairement c'est quand même pas tout à fait la diplomatie soviétique habituelle celle-là même s'il y avait eu une rupture entre Israël et l'Union soviétique c'est quand même très poutinien cela non
non c'est quand même je dirais c'est un peu dans la lignée d'Andropov qui avait choisi justement de soutenir les terroristes au Moyen-Orient hein. C'était la politique d'Andropov pour torpiller les accords d'Oslo, d'abord les accords de Camp David, puis les accords d'Oslo. C'est une vieille politique soviétique aussi, mais ce que fait Poutine, c'est qu'il généralise en quelque sorte cette approche aux relations internationales. À l'époque soviétique, c'était quand même, c'était pas que cette, il y avait cet aspect subversif de la politique étrangère soviétique par le KGB, mais il y avait une autre politique parallèle, enfin qui allait dans le même sens évidemment, mais mais plus respectable en apparence en tout cas, alors que maintenant on a uniquement cette politique du KGB de subversion tous azimuts, de recrutement, de subversion tous azimuts.
Mais les Russes, les Soviétiques avaient aidé, quand l'Égypte a fait la guerre à Israël, les Soviétiques avaient fourni des pilotes et des avions, ils avaient participé d'une certaine façon à l'offensive syrio-égyptienne.
Tout à fait.
Voilà, enfin ce chapitre est loin d'être clos, donc on y reviendra évidemment dans de prochaines éditions de commentaires. Merci en tout cas François Stomme de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ses réflexions sur Poutine, sur son plus récent discours stratégique. Merci à vous toutes et à vous tous donc de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.